BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est quasiment midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et les marchés qui reprennent un peu leur souffle malgré le redémarrage de la guerre au Moyen-Orient et la poursuite des affrontements entre les Américains et les Iraniens. Les places européennes sont légèrement dans le vert. Petit apaisement également sur le marché obligataire, même si le 10 ans français reste particulièrement élevé autour des 3,89%. Côté pétrole, les prix refluent un peu avec un baril de Brent autour des 77$ ce midi, contre près de 80 hier. Sur le terrain, pourtant pas d'accalmie. Les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran la nuit dernière pour tenter de réduire le contrôle exercé par Téhéran sur le détroit d'Hormuz. L'armée iranienne, elle, affirme avoir lancé des représailles contre les pays alliés de Washington dans le Golfe. En France, nouvelle étape importante en vue de l'élection présidentielle. Les socialistes doivent se prononcer en fin de journée sur le périmètre qu'ils souhaitent à leur primaire pour la désignation de leur candidat. Enfin, un mot des chiffres de l'emploi publiés ce matin. Le nombre de contrats de travail signés au premier trimestre a augmenté de 0,9% par rapport au trimestre précédent. Une légère progression tirée par la hausse des CDD, alors que les embauches en contrat à durée indéterminée, elles, continuent de reculer. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier au sens large, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers et des petites annonces, figurez-vous. Et aujourd'hui, le logement qu'on achète, c'est une péniche. On verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Aujourd'hui, on parle immobilier de prestige, mais avec un air de vacances. Et c'est l'été quand même, hein. Donc, on va partir dans les plus beaux spots de nos vacances d'été, voir comment cet immobilier de prestige évolue. Mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Damien Gignoux, agent immobilier L'Adresse à Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors je le disais, aujourd'hui vous allez nous proposer un bien assez particulier à la vente. On sait qu'ils existent ces biens et vous en vendez en l'occurrence une péniche.
Voilà, je vends en fait ce qu'on appelle des bateaux logements. Donc ce sont des bateaux qui n'ont plus de moteur et qui sont dédiés en fait à accueillir des gens qui veulent, on va dire, réaliser un projet. Ils vont pas aller se promener avec leur bateau sur la Seine ou sur l'Oise, mais en tout cas, ils vivent sur un bateau. Moi, j'appelle ça des lofts sur l'eau, parce que c'est des biens qui sont, c'est des bateaux qui sont complètement aménagés, isolés, avec souvent de la domotique. Enfin, vraiment, on vit, c'est très particulier, mais c'est très atypique. Mais c'est de plus en plus recherché, en fait.
Et alors, l'un des atouts clés, quand même, de cette péniche, de ce bateau-logement, c'est quand même son prix. Quand on voit, justement, à quoi ça ressemble, on voit bien qu'on n'est pas sur une petite barque, hein, quand même. C'est assez chouette.
C'est ça.
Et effectivement, par rapport à la même surface qu'on pourrait avoir, typiquement pour une maison bord de Seine, rien à voir.
Exactement. Donc, en fait, je rentre un tout petit peu dans un détail technique. C'est les péniches les plus que je vends le plus. On appelle ça, c'est un fraissinet. Et les fraissinets, c'est 38 mètres de long par 4 mètres de large. Donc, en fait, on est sur une péniche, un bateau qui fait 180 mètres carrés habitables.
Oui, c'est pas rien. Fait, c'est quand même pas rien, 180 mètres carrés. Ça me fait plaisir.
Voilà, exactement. Et 180 mètres carrés habitables. À Conflans, on va tourner sur un prix qui avoisine les 300 000 euros. Alors que si je fais une comparaison de rentabilité par rapport à une maison de la même surface à Conflans, bon, on va être plutôt dans les 500 550 000. Donc effectivement, c'est très rentable. Le rapport au mètre carré est très très intéressant. Quoi.
Après, il y a quand même des particularités quand même à ce bateau logement, c'est qu'il y a des obligations, des petits frais en plus. Est-ce que finalement c'est un jeu à somme nulle ou est-ce que quand même à la fin je m'y retrouve pas du tout ?
Non, vous vous y retrouvez. Maintenant, ce que j'ai constaté moi, c'est que les gens une péniche un peu par hasard entre guillemets, au bout de 2-3 ans vont déchanter. Pour habiter sur un bateau, faut avoir un certain ADN Et ça peut être parce que les parents étaient bateliers, ça peut être parce qu'on a fait beaucoup de voiles et qu'on a vraiment envie de vendre, on a vraiment envie de vivre sur un bateau. Mais effectivement, après, il y a des, il y a certains inconvénients. Par exemple, je peux vous en parler. Vous n'êtes pas propriétaire de l'emplacement. Vous louez l'emplacement où est installée, où est amarrée la péniche. Vous voyez,
donc ça, c'est particulier. Et ça peut ressembler, ça peut ressembler à quoi comme facture, j'imagine? Alors c'est quoi? C'est une facture annuelle, mensuelle?
C'est une facture qui peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. L'interlocuteur que vous allez avoir, c'est VNF, c'est les Voies Navigables de France, qui s'occupent en fait de régir un peu toutes ces péniches qui sont amarrées. Et on va être sur une facture annuelle à peu près de 4000 euros quand même.
Ah oui, donc c'est pas rien quand même,
Damien. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien.
Il y a un autre truc aussi dont on m'a souvent parlé, c'est qu'il faut quand même le sortir de temps en temps, ce bateau-logement.
Voilà, exactement. Donc, toujours par rapport à VNF, et ce qu'impose VNF, c'est que tous les 10 ans, la péniche doit être mise à, on va dire, en cale sèche, et on doit vérifier l'état de la coque, on doit faire nettoyer, changer ce qu'on appelle les anodes, et avant qu'elle puisse intégrer. Donc ça, c'est un coût tous les 10 ans. Donc là, on peut quand même provisionner. C'est pas des sommes énormes. S'il n'y a pas de problème particulier, c'est à peu près 10 000 euros. Voilà.
Et Damien, juste un dernier mot. Vous le disiez, donc là, oui, on a vu à peu près les plus, les moins de cette idée de vivre sur une péniche. Et vous le disiez, donc profil particulier, il faut quand même savoir à quoi s'attendre. Je vais vous poser des questions idiotes, sans doute, pour vous qui êtes spécialiste en la matière, mais est-ce que c'est plus humide? Est-ce que la capacité à se réchauffer l'hiver et se rafraîchir l'été est la même que sur un logement qui serait correctement isolé? Enfin voilà, des questions peut-être idiotes, mais pour celles et ceux qui pourraient être intéressés en mode coup de cœur, peut-être les prévenir de ça.
Bien sûr. Alors, l'humidité, quand on est à l'extérieur, qu'on est sur la terrasse, par exemple, de la péniche, bien sûr qu'il y a de l'humidité. On n'est pas loin de l'eau, on n'est pas loin de la Seine. Mais à l'intérieur, par contre, on a énormément évolué, puisque toutes les techniques d'isolation font que quand on est dans la péniche, c'est pour ça que je parlais de loft sur l'eau, on est dans une maison classique. Donc ça, vraiment, c'est très important de se dire que quand on est dans la péniche, c'est comme dans une maison, quoi. Et puis après, je vous parlais, là, j'ai un exemple de domotique. J'ai une cliente qui, elle, avant d'arriver sur sa péniche, à distance, elle va déclencher son poêle. Elle rentre chez elle, elle arrive chez elle, il fait 18, 19 degrés dans son salon et elle est tranquille. Donc vraiment, pour ça... d'ailleurs, hein, sur certaines annonces, j'ai des gens qui pensent m'appeler en me disant qu'ils veulent acheter une maison, et je leur dis, mais non, regardez bien les photos, c'est pas une maison, c'est un bateau, c'est un loft, mais c'est sur l'eau. Donc c'est pour ça que, bon an, mal an, même s'il y a certains coûts cachés, c'est quand même très très intéressant aujourd'hui de vivre sur un bateau, et on va vraiment profiter de... on va dire de début avril jusqu'à fin octobre. C'est vraiment la période où là, au petit matin, on se prend un petit déjeuner, on voit les cormorans qui passent. C'est quand même des images très sympathiques, et puis c'est des moments très très sympas.
Et pas de mal de mer, pas de mal de mer, Damien?
Ça bouge un peu. On est sur un fleuve, donc de temps en temps, vous avez des barges qui passent. Bien sûr, il faut... moi, j'ai pas spécialement le mal de mer, quoique... mais ça bouge pendant quoi, 30 secondes. Il y a une grosse barge qui passe sur la Seine, ça va bouger un petit peu le bateau. Mais on n'est pas sur une mer déchaînée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre quand on est sur un bateau et qu'on fait une traversée où là ça bouge pendant 2 heures, quoi.
Merci Damien Gignoux pour votre témoignage. Le marché de ces péniches, qui est quand même très intéressant sur l'achat, évidemment, à faire les calculs, hein, entre le loyer pour l'occupation et puis la sortie tous les 10 ans, évidemment c'est en prendre en compte, mais quand même, si vous nous regardez à la télé, on avait des images qui donnaient fortement envie, puis alors les 18-19 degrés en pleine canicule, je vous cache pas, Damien, que ça m'a donné beaucoup envie. Damien Gignoux, agent immobilier, l'adresse Conflans-Sainte-Honorine, qui est avec nous. Et tout de suite on passe, je suis fatiguée, c'est la fin de la saison, on passe au débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
J'allais dire on part en vacances, c'est dire l'état de ma fatigue. À mes côtés, Laurent Demeure, le président de Coldwell Banker Europa Realty.
Bonjour Marie.
Vous avez vu, je me suis entraînée. Hein.
Ben, c'est marrant,
maintenant,
c'est
je
merveilleux.
Me fais super bien. Hein. Et Julien Bourdry, directeur commercial Barnes, France, Belgique, Luxembourg. Bonjour.
Bonjour Marie.
Messieurs, on va effectivement partir en vacances. C'était pas complètement idiot d'avoir cette pensée-là, puisque vous allez là aussi m'envoyer du rêve. On l'a vu avec la péniche en bord de Seine. On va s'éloigner un peu de la Seine, non ? Je sais pas si vous allez me le proposer, ça. On va partir en vacances là où il fait bon vivre cet été, avec des endroits formidables et où ce marché de l'immobilier de luxe, première question, perdure, tient encore, quand bien même, par exemple, je pense à la Côte d'Azur, quand bien même les chaleurs excessives pourraient en pousser certains à partir ailleurs ?
Je confirme que le marché tient. C'est un marché aujourd'hui de personnes qui ont plus de 50 ans, majoritairement, qui cherchent des résidences secondaires. Les Français sont très attachés aux résidences secondaires. Les Européens, d'une manière générale aussi. Et la France, avec sa richesse de patrimoine, ses littoraux, et aussi tous les sites historiques, n'oublions pas que nous sommes la première destination de vacances mondiale, continue d'attirer. Ce qui manque, je dirais là, c'est pour les vendeurs, ce qui manque, ce ne sont pas des acquéreurs qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour n'importe quoi. C'est ça qui manque peut-être pour certains vendeurs. Aujourd'hui, des acquéreurs sont là, mais des acquéreurs sérieux, plus que la valeur, ou payer le même prix pour s'offrir le rêve que le voisin d'à côté. Voilà. On n'est pas dans un marché aujourd'hui comme a pu connaître des années un peu plus euphoriques, ou comme connaissent, je fais un aparté sur, par exemple, comme le marché actuel de San Francisco, où avec les introductions en bourse, il y a une telle spéculation où tout se vend 1 million au-dessus des prix demandés.
Bon, et très vite.
On n'en est pas là du tout. On est sur un marché de très belles propriétés, de grande qualité, et principalement au-dessus de 2,5 millions. On est un petit peu tendu entre 1 et 2,5 actuellement, en termes de demande, un peu creux. Mais au-delà de 2,5, 4, 5, nous avons une forte demande.
Mais là, c'est pour ça que je voulais démarrer là-dessus. Alors, j'avais pas anticipé, mais c'est vrai qu'en fait, je voudrais vous rendre hommage. Déjà, Laurent, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, vous étiez l'un des premiers à avoir sorti ce mot de l'Atlantique Riviera. Mm-hmm. Oui, on est tous en train de vivre ces dernières semaines, des températures qu'on n'avait jamais connues. Est-ce que sur ce marché de l'immobilier de prestige, il y a quand même, une espèce de changement géographique des désirs des acheteurs? Est-ce que cette fameuse Côte d'Azur, ces endroits ultra prisés par les plus grandes fortunes du monde, elle commence à être un petit peu moins demandée? Je ne sais pas, Julien, c'est une question que je me pose sincèrement.
Nous, c'est un phénomène qu'on n'observe absolument pas. Pas du tout sur la Côte d'Azur. Pour vous donner une idée, on va faire plus 30, plus 35% nous, de chiffre d'affaires sur la Côte d'Azur cette année. On revient au niveau de 2022, qui était une année record. Et on voit en fait nos chiffres qui progressent sur absolument tous les secteurs de villégiature. On va faire plus 20% sur la Côte Basque. Le bassin d'Arcachon fait sa meilleure année, c'est-à-dire au-delà de 2022.
Ah mais là, on est déjà passé en Atlantique. Hein. Bon, il fait chaud.
Si je reviens sur la Côte d'Azur, en fait, c'est un marché qui est porté par l'ultra-luxe. Donc plutôt, on fait beaucoup de ventes au-delà de 10 millions d'euros cette année. Et dans ces segments-là, vous avez un côté patrimonial et sécurisation de votre patrimoine. Ce sont des coins extrêmement exclusifs où les prix ne baissent pas. C'est-à-dire quand ils évoluent, c'est toujours à la hausse. Donc en fait, il y a ce côté qui prime sur, la chaleur. Alors en plus, la Côte d'Azur, c'est un endroit où il a toujours fait chaud. Donc j'imagine que même avec l'augmentation des températures, nos clients sont moins effrayés que sur d'autres secteurs en tout cas. On n'a pas du tout de remarques sur...
Vous n'avez pas cet enjeu de climat qui joue sur les transactions, quoi?
Non, moi, je le ressens pas du tout. Sur la Côte d'Azur, il a toujours fait chaud, l'été 33, 34. Donc, à la limite, je dirais, il fait un temps presque normal sur la Côte d'Azur. Et c'est plutôt dans les villes comme Paris où on a un temps anormal.
Exceptionnel.
Et donc, la Côte d'Azur, aujourd'hui, elle attire toujours les très grandes fortunes. Avec les biens, effectivement, 10, 15, 20 millions.
C'est quoi les meilleurs spots de la Côte d'Azur, là?
Si on met à part Monaco, qui reste toujours un monde à part, on est en train de faire des négociations, où on est sur des budgets entre 30 et 40 millions, des négociations en cours. Mais si on fait à part Monaco, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d'Antibes. Ça reste les deux grands endroits, pour moi, où on peut s'offrir une des plus belles propriétés. Après, La Côte d'Azur, elle part du Var, elle part de Bandol, elle part de Sanary, ouais. elle part Carqueiranne, elle va sur le, évidemment sur Saint-Tropez.
Ouais, bien sûr.
Et si on va sur Saint-Tropez, on a une très forte demande aussi. On a beaucoup de clients, nous, qui arrivent de Saint-Barth, qui vont sur Saint-Tropez. On a aussi des demandes sur d'autres régions de la Côte d'Azur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle va jusqu'à la frontière espagnole, ouais, avec ouais. Collioure. Et on a des demandes...
Charbon, Collioure. Mais,
et là, on trouve des clientèles complètement différentes. D'un côté, là, on trouve des clientèles qui viennent beaucoup plus chercher, je dirais, du côté sauvage, vrai, voilà.
Ouais, on est moins dans le bling-bling, quoi. C'est un peu l'idée aussi.
Et pour revenir entre l'Atlantique Riviera et la Côte d'Azur, finalement, les clients sont un peu différents aujourd'hui. C'est-à-dire que Côte d'Azur attire évidemment des grandes fortunes traditionnelles qui viennent, comme le disait...
Julien. Pour
Julien. Excuse-moi.
Alors, on précise à nos auditeurs et téléspectateurs que le pauvre Laurent était encore à Faune il y a quelques heures. Donc, voilà, il fait un effort...
qui viennent traditionnellement prendre du très bel immobilier qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Ouais.
Et aussi, ça attire aujourd'hui les nouvelles fortunes des jeunes milléniaux de la tech, qui sont une génération un peu TikTok, Insta, et qui voient la Côte d'Azur à travers les applications et qui veulent s'offrir le rêve. Alors que l'Atlantique Riviera, on va trouver un peu plus old money. Voilà, c'est déjà de l'argent ancien, où on vient chercher plus de, je dirais, de tranquillité. Et un style de vie où on passe beaucoup plus inaperçu.
Ah oui, donc c'est ce côté bling-bling versus pas bling-bling, un peu plus discret, c'est peut-être ça aussi.
All the new money.
Ouais, mais c'est intéressant. Vous constatez la même chose dans les clientèles entre effectivement la côte atlantique et la côte méditerranéenne ?
Ce sont des clientèles très différentes. Et on observe d'ailleurs, parce que très souvent, les gens qui achètent une résidence secondaire à la mer font la même chose à la montagne pour l'hiver.
Ouais.
Un client de Saint-Tropez, vous avez de fortes chances de le retrouver à Courchevel, voire Megève l'hiver. Un client de Biarritz, il ira plutôt à Méribel. Donc c'est vraiment...
On va faire le portrait type, ça va être drôle, ça faudrait qu'on se le fasse un jour.
Et vous avez même dans la clientèle parisienne qui achète à ces différents endroits, ils ne viennent pas des mêmes arrondissements. Enfin, c'est quand même très, très, très marqué et très segmenté.
Ah ouais, mais c'est plutôt assez intéressant de voir justement quel type de clientèle que vous avez, puisque j'imagine que derrière old ou new money, vous avez aussi des montants qui sont pas nécessairement les mêmes, quoique dans le bassin d'Arcachon, j'imagine quand même que
Arcachon, il y a des prix à... Alors il y a pas les prix de la Côte d'Azur, il y a du 10-15 millions, notamment le Cap Ferret.
Ouais, bah ouais.
On voit nous aussi une destination qui est très fortement montée là depuis 2 ans, c'est Osgore.
Vraiment. Ah oui, ben là, on
monte énormément avec beaucoup de demandes. Le bassin d'Arcachon était fortement monté. Osgore avait été pris un peu entre Biarritz et le bassin où la clientèle est sur Biarritz. Voilà. Et là, tout à coup, Osgore reprend du souffle, reprend de l'envie et énormément de demandes pour acheter à Osgore. Enfin, nous, en tant que Club Bankers, que l'on reçoit aujourd'hui. Mais c'est un marché qu'on en parle peu aussi, c'est la Corse. Et on voit aussi beaucoup de familles qui viennent s'installer en Corse. Et avec quelque chose d'amusant, c'est. Pas très loin des ports de plaisance, parce qu'ils veulent faire, parce que maintenant de plus en plus ils ont leur propre bateau.
Ils ont leur permis bateau avec, ou alors le capitaine.
Voilà, ils ont plutôt un yacht avec un capitaine et un équipage, et ils veulent être assez proches. Et nous, on le voit en vendant des propriétés qui sont assez proches des ports de plaisance, et on voit un grand croisement actuellement entre la clientèle des yachts et la clientèle des propriétés sur les résidences secondaires. On voit ça avec nos partenariats avec les Moana Yachting, qui est une société de yachting. On a des échanges et des croisements de clients. Et très souvent, on a des clients qui achètent à la fois le yacht et à la fois la propriété, les deux ensemble.
Sympa. Vous me donnez envie, là, Laurent, c'est horrible.
Tu voulais du rêve.
Bah oui, bah là, c'est bon, je l'ai, le rêve, là. Mais alors, du coup, je sais pas si on va moins rêver, parce qu'il y a quand même des propriétés formidables, mais j'aimerais qu'on remonte un peu vers le nord. Parce que là, donc, on s'est fait quand même le sud-est, le sud-ouest. Et si on remontait le long de l'Atlantique, limite Manche, pourquoi pas, hein. Est-ce que là aussi vous avez des marchés dynamiques? Je vais arrêter de vous parler de la canicule, de ce besoin de fraîcheur, mais enfin quand même, la Bretagne, je sais pas, est-ce que vous avez des spots qui là sont en train de prendre auprès des grandes fortunes du monde dans le nord de la France?
On a deux marchés, nous, qui fonctionnent bien en ce moment, c'est La Baule et Deauville.
Ouais.
Qui sont portés par une nouvelle clientèle européenne, notamment. C'est-à-dire, traditionnellement, c'était essentiellement une clientèle parisienne.
Ouais.
On voit de plus en plus d'Européens, alors des pays limitrophes, hein, de Belgique, Pays-Bas, Angleterre aussi, qui investissent dans ces lieux. La clientèle anglaise, traditionnellement, on l'a retrouvée, par exemple, sur la Côte d'Azur, vous l'aviez plutôt dans l'arrière-pays. Et donc, ce sont des endroits qui correspondent bien, un petit peu plus discrets, avec plus d'espace, moins de chaleur.
Eh bien, quand même, donc vous voyez, hein, y a un enjeu. Je veux absolument vous faire dire ça, mais quand même, effectivement, j'imagine que sur des propriétés dont on parle, qui sont quand même exceptionnellement chères, évidemment, mais exceptionnellement équipées aussi, j'imagine, il y a moins ce sujet aussi, puisque j'imagine qu'elles sont équipées de clim pour la plupart.
Climatisées, bien évidemment.
Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, je pense que c'est de là aussi qu'il y a...
de plus en plus des panneaux solaires qui permettent d'avoir la clim dans la journée, ce qui fait que c'est zéro coût électrique pour une propriété. Donc elles sont toutes équipées aujourd'hui complètement. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit beaucoup d'expats aussi revenir, acheter une résidence secondaire en vue peut-être d'un projet de retraite ou en vue de garder quand même un lien avec la France.
Ouais, ouais.
Et ils reviennent souvent dans des destinations où ils ont passé leurs vacances d'enfance. Donc c'était soit des personnes, par exemple, soit des Nantais, ils vont revenir sur la Baule ou la Bretagne, soit des Bordelais qui vont aller sur le bassin d'Arcachon ou Parisiens qui vont aller sur Deauville. Voilà. Donc ils vont essayer de retrouver des sensations ou des souvenirs d'enfance aussi,
ouais,
le rachat immobilier.
Mais enfin voilà, j'essaie de nous faire vraiment tout le littoral français et de remonter vers le nord, parce que je me souviens qu'au moment du Covid, on avait parlé des nouveaux territoires de l'immobilier de luxe, des endroits qui n'étaient pas connus pour avoir des très belles maisons, oui, mais peut-être pas autant de dynamisme sur des biens aussi chers. Est-ce que aujourd'hui vous constatez que ces nouveaux territoires existent encore, ou est-ce que ça a été depuis quelques années, ça fait 2-3 ans qu'on se dit c'est un petit peu retour aux fondamentaux? Donc avec effectivement la Côte d'Azur, le bassin d'Arcachon, Paris évidemment. Est-ce qu'il y a quand même encore ces nouveaux territoires ou pas ?
Il y a moins une recherche de nouveaux territoires qu'il y a eu en sortant du Covid.
Ouais.
Voilà. Pourquoi ? Parce que la demande, comme je l'ai dit, entre 1 et 2,5, elle est un peu plus... elle est moins puissante qu'avant. Voilà. Donc on est plutôt sur des acheteurs qui ont déjà des patrimoines établis et qui sont moins en recherche de nouveaux territoires.
Ouais, ouais.
Ils sont en recherche d'acquisition, de sécurisation du patrimoine dans un monde qui s'agite,
entre
la géopolitique, comme tu en as parlé, les enjeux, est-ce qu'il y aura une bulle Internet ou pas. Donc ils se replacent tranquillement dans l'immobilier. Et surtout, ils se placent dans l'immobilier parce qu'on a aussi les présidentielles qui vont bientôt arriver. L'IFI est là, on le connaît,
l'impôt sur la fortune immobilière.
Oui, l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que, suite aux élections présidentielles, on reviendra à un impôt sur la fortune, point, et non pas qu'immobilier? Et dans ce cas-là, beaucoup de clients anticipent en se disant, bah, après tout, si je vais être taxé sur mes actifs qui sont placés dans des actions, autant que je les sorte tout de suite et profiter des opportunités du marché immobilier actuel.
Ouais, c'est intéressant.
On est sur une pause en termes de montée des prix. C'est vraiment le bon moment cette année pour investir. Et beaucoup se vont là-dessus aujourd'hui.
Julien, ces nouveaux territoires, j'insiste lourdement, mais...
Ouais, je suis assez d'accord avec Laurent. Ce sont pas réellement des nouveaux territoires. Peut-être une nouvelle clientèle qui sort de Paris pour vivre et travailler à l'année.
Ouais.
On voit de plus en plus de jeunes entre 30 et 40 ans qui ont un projet de vie hors Paris, mais qui travaillent quand même dans des entreprises dont les sièges sont à Paris, mais ils ont des métiers qui leur permettent
de télétravailler
à distance ou de voyager. Et c'est vrai que là, la façade atlantique est particulièrement intéressante, puisque vous avez le train qui vous amène à Paris assez facilement.
Ouais, vous parliez quand même de La Baule et Deauville. On est quand même sur des distances qui sont parfaitement acceptables.
Exactement. Je dirais que entre les avions... aujourd'hui la navette pour aller à Nice ou c'est facile.
Oui, c'est ça, j'ai envie de dire, même
facile. Mais ce qu'on voit, alors là où je mets juste un petit bémol par rapport à ce que dit Julien, c'est vrai que on voit beaucoup de gens, finalement on l'a bien vu dans les études, que Paris aujourd'hui est moins attractif qu'il n'a été, n'est plus le premier marché, parce que beaucoup de personnes à partir de 50 ans commencent aujourd'hui déjà à s'installer en région. Alors parce que les grandes villes ont tendance, les maires des grandes villes ont tendance à s'adresser de plus en plus à une clientèle de millennials, avec les pistes cyclables, avec la praticabilité des voitures, et tout ça. Donc finalement, les personnes qui ont déjà une certaine carrière derrière eux,
ouais.
ont tendance à les retrouver dans les régions, et notamment sur les littoraux.
Oui, alors souvent,
ils
gardent quand même une espèce de pied-à-terre à Paris, parce qu'ils ont bien conscience que c'est typiquement dans les très grandes villes un peu denses, où il y a tous les soins qui vont avec aussi. C'est ça aussi le sujet.
C'est médical, voilà.
Ouais, c'est ça, il y a quand même un enjeu où j'ai quand même un pied-à-terre à Paris, ce qui est un peu le sujet de la mairie de Paris, mais bon, bref. Juste un dernier mot, messieurs, il nous reste 3 minutes à tout casser. On a parlé de ces jolis endroits où achètent les grandes fortunes, mais on parle évidemment de résidences secondaire. On a dit en creux là qu'il y avait quand même un contexte très particulier, la guerre au Moyen-Orient, la question de nos taux d'intérêt, la question de notre instabilité politique. Est-ce que vous sentez que même sur votre clientèle, ça peut avoir un impact sur leur envie d'acheter, et a fortiori d'acheter une résidence secondaire, au-delà de la perspective dont vous parliez, Laurent, sur IFI ou pas IFI, enfin voilà, est-ce que vous sentez que ce contexte général en France et sur ces lieux de villégiature, il y a un impact, quoi, aujourd'hui ?
Ça a un impact sur la tranche 2 millions, 5 millions.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a traditionnellement les montants de résidence secondaire qui étaient acquis par des chefs d'entreprise en majorité.
Ouais.
Là, on sent qu'il y a un attentisme quand même et des clients qui attendent de voir un petit peu ce qui va se passer. Ça n'a pas d'impact sur l'entrée de gamme qui est à la fois de la résidence principale et parfois un petit peu d'investissement locatif aussi dans des villes comme Cannes, par exemple,
ouais.
Qui vivait l'année. Et ça n'en a pas non plus sur la tranche du luxe où là, il y a un côté sécurisation, au contraire,
ouais, ce que disait Laurent.
Dans des biens à des montants de 10, 15, 20 millions d'euros.
Ouais, ouais.
Donc, c'est vraiment la tranche.
Il y a un segment quand même qui, effectivement, est un peu en stand-by. Quoi.
C'est entre 2 et 5 millions. On a vu un ralentissement net sur l'achat de résidence secondaire.
Laurent ?
La géopolitique, bien évidemment, amène à se poser des questions. On est dans un environnement insécurisé aujourd'hui. On est dans une future élection présidentielle. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui.
Ouais.
Ce qui fait que certaines personnes peuvent se poser des questions au moment de passer à l'acte. C'est-à-dire que du projet, du désir, de l'envie et du passage à l'acte, pour certaines personnes, tout d'un coup, il y a un coup de frein.
Ouais.
Mais ce que l'on constate aussi, c'est que ceux qui en ont les moyens, aujourd'hui, les taux d'intérêt commencent à flamber, on sait que la bourse est au plus haut, commencent à se dire... Le pétrole monte, là encore.
Ouais,
la France emprunte à 4%.
On n'est plus très loin, on est à 3,89 ce midi.
Voilà. Donc, finalement... m'offrir une belle résidence secondaire, alors que les prix des billets d'avion vont augmenter de plus en plus.
Donc, et que ceux qui achetaient à Dubaï & Co, ils ne sont pas tellement incités compte tenu du contexte international.
Les prix de l'immobilier américain sont très élevés. Donc finalement, les destinations européennes apportent à la fois un environnement agréable pour vivre, une sécurité, et je dirais un patrimoine qui permet de se conserver de génération en génération et de famille en famille. Et donc là-dessus, la France a un véritable atout et elle doit continuer à capitaliser dessus.
Oui, c'est des signaux contradictoires, quoi. C'est des signaux contradictoires. L'instabilité intrinsèque à la France et à la politique française et à l'économie française et l'instabilité géopolitique, j'ai envie de dire, c'est quand même... Et vous devez arbitrer entre les deux et puis...
On a des arbitrages avec des clients qui nous posent plein de questions, c'est vrai. Mais après, je dirais, il y a un moment où... quand on voit les canicules dans les grandes villes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils partent tous. Et ils se disent, finalement, mon copain qui a une résidence secondaire qui m'a invité à venir passer la canicule chez lui, je vais faire comme lui, je vais en acheter une moi aussi.
Ouais, bah vous m'invitez la prochaine fois, messieurs. Hein.
Bah, grand plaisir.
Le jingle de l'émission est parti, mais moi, je pars avec vous, là. Hein. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty. Alors là, je l'ai fait à la française. Hein. Et Julien Bourdry, directeur commercial Barnes, France, Belgique, Luxembourg. Merci à tous les deux.
Merci, Marie.
De nous avoir fait un petit peu voyager en restant en France, mais dans des endroits assez chouettes, et c'est un euphémisme. Les experts de l'IMO reviennent demain sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.